Bienvenue sur le podcast qui fait sourire les cheveux gris. Ici, on vous donne les clés pour vieillir chez vous. Parce que rester chez soi, c'est un choix, un droit, un défi qui se prépare. Parce qu'on voudra tous vieillir chez nous. Et que la clé, c'est de bien anticiper. Avec ce podcast, on vous aide à y voir plus clair, avec bienveillance et bonne humeur.
Bonjour et bienvenue sur cet épisode intitulé « Quelle toi pour mes vieux jours ?» qui fait partie du podcast qui fait sourire les cheveux gris. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Maureen pour parler des différentes solutions d'hébergement qui sont à disposition des seniors. On va tout de suite commencer par le contexte démographique et économique qui nous a poussé à réfléchir et à vous proposer ce podcast et les séries de conférences qui vont en découler.
Bonjour, je suis également ravie de vous retrouver. Je vais tout d'abord vous parler d'une statistique qui m'a interpellée. Aujourd'hui, en 2024, près de 20% de la population a plus de 65 ans, avec déjà 30% de retraités vivant seuls. Et il y en a une autre qui m'a interpellée, c'est la projection de l'INSEE. En 2045, plus d'un habitant sur trois aura plus de 60 ans. Et il y aura plus de femmes que d'hommes.
Ok Maureen, donc en fait plus de 60 ans ça ne veut pas dire forcément à la retraite, mais ça veut dire une population vieillissante.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi est dû principalement ce vieillissement de la population ?
Oui, alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la génération des baby-boomers, je ne reviens pas sur ce qu'est des baby-boomers, rentre en retraite. Accompagnée également de l'allongement de l'espérance de vie, qui de notre point de vue est quand même plutôt une bonne nouvelle.
Ouais.
Il y a également la diminution du taux de natalité.
Ah oui, ça c'est un autre point sur lequel on est alerté en fait.
Oui, effectivement, il y a une actualité en janvier 2024. Notre président Macron a présenté un plan de réarmement démographique. Donc ça veut quand même dire que la France, là aujourd'hui, a besoin de plus de bébés.
Ouais, en fait c'est mécanique. On a besoin de plus d'actifs parce que c'est pas plus de bébés, mais c'est plus d'actifs pour payer plus de retraites en fait.
Exactement. Et c'est d'ailleurs un gros problème. C'est ce qui a poussé également, encore une fois, notre gouvernement à repousser l'âge de la retraite, qui est passé de 64 à 67 ans en 2023. On a besoin d'actifs pour financer les retraites.
Oui, et donc on va pas revenir sur ce qu'on a dit dans le précédent podcast, mais ça crée des tensions entre le fait que la population vieillisse, qu'il y ait moins d'actifs, et que les actifs vont être actifs plus longtemps, et donc potentiellement moins libres de s'occuper de leurs aînés. On va sortir de ce domaine démographique. Pratique. On va parler un peu d'économie. Qu'est-ce qui t'a interpellé, toi, dans les statistiques concernant les retraités ?
Alors, sur le volet économique, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est la paupérisation des personnes en perte d'autonomie. 15% des personnes âgées en situation de perte d'autonomie sont en situation de pauvreté. Et ça, c'est en 2019. Donc, okay. En fait, ça ne va faire que s'augmenter. Et le risque, il est là, c'est que être en perte d'autonomie, c'est coûteux. Aller en EHPAD, c'est coûteux aussi. Mais ce n'est pas uniquement la seule solution qui existe. Et c'est d'ailleurs les différentes solutions qu'on va vous présenter.
Oui, alors il faut nuancer un peu le propos des chiffres de 2019 parce qu'en début d'année 2024, on a quand même la prime ADAPT qui devient plus accessible aux personnes en perte de mobilité ou en situation de handicap. Ça permet quand même de pouvoir adapter son logement. Mais ça, c'est souvent dans des situations plus ou moins d'urgence. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de comment on anticipe. Et qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? On s'est rendu compte que c'était compliqué de s'informer quand même. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir dans ce podcast tout ce qui peut vous aider à anticiper.
Avant de commencer, je vais d'abord vous rappeler ce qui est important pour nous finalement dans le choix d'un logement. C'est un logement qui soit adapté, qui soit sécurisé. Et qui soit digne. Parce qu'effectivement, encore une fois, on a vu nos grands-parents changer de lieu de vie. Et on a envie que, et pour nous, malgré notre âge, hein, et pour nous et pour nos parents, on a vraiment envie de choisir un logement qui leur corresponde et qui nous corresponde aussi. Mais pour ça, en fait, ça s'anticipe. Et c'est là-dessus, en fait, c'est si on veut choisir, si on veut être libre de choisir, il faut déjà ouvrir la discussion avec nos proches. Et il faut se renseigner, il faut écouter cet épisode, hein, très important, et il faut aussi prendre des décisions.
Oui, alors soit des décisions pour soi-même et les communiquer à ses proches.
Exactement.
Soit des décisions pour nos proches qui sont déjà rendus à faire ce choix, en fait.
Exactement, il faut se renseigner, il faut discuter. Et il faut choisir.
Ouvrir le débat.
Exactement, ouvrir le débat.
Super.
Plus justement.
Alors pour débattre, tu vas nous donner peut-être quelques clés, différents logements qui sont accessibles.
Le premier dont je vais vous parler, c'est le plus connu, c'est donc l'EHPAD.
Il faut faire un distinguo avec la maison de retraite, il me semble.
Tout à fait. La maison de retraite, c'est plus la grande catégorie. C'est l'ensemble des résidences qui existent aujourd'hui pour les seniors. Et il y en a plusieurs, il n'y a pas que l'EHPAD. Et l'un d'entre eux est effectivement celui-ci. Donc qu'est-ce que c'est ? L'EHPAD, c'est un établissement médicalisé pour personnes plutôt dépendantes.
Ok, d'accord.
Mais il existe aussi
de logement.
Exactement. Par exemple, il y a les foyers autonomie. Donc un foyer autonomie, c'est un type d'établissement pour personnes âgées qui leur permet de vivre dans un logement individuel, mais qui, celui-ci, hein, tout comme l'EHPAD finalement, est adapté. Donc il y a aussi des services collectifs et un environnement sécurisé.
Ouais, ça permet de rompre aussi la solitude.
Exactement, parce qu'on parle plus aussi de personnes autonomes.
Ok.
Donc c'est la différence, par exemple, avec un EHPAD.
L'idée,
c'est de rompre quand même... Il y a moins d'autonomie, mais il y a moins d'isolement.
On a un autre type de résidence que les foyers autonomie qui prend de l'essor, on en entend de plus en plus parler.
De plus en plus parler, tu as tout à fait raison, vous ne serez pas surpris. Ce sont les résidences seniors.
Okay.
Donc là aussi, les résidences seniors, elles s'adressent aux personnes âgées autonomes. Là, on parle d'un environnement également sécurisé, mais l'accent est porté sur la convivialité et le confort. Donc, dans une résidence senior, elles peuvent être, il y a des petits logements de différentes tailles d'ailleurs, et plus ou moins grands. Ça passe du studio à.
Ça peut aussi être de la maison en fait, finalement.
Oui. Et ils sont soit meublés, soit non meublés, mais en tout cas, ils sont équipés, par exemple, d'une cuisine.
Ok, donc là, ça permet de garder quand même son propre rythme de vie,
oui.
D'avoir un cadre d'accompagnement et de rompre aussi une solitude potentielle.
Exactement, et l'idée, c'est de se dire, par exemple, il y a un restaurant, si on a envie d'y aller, on y va, si on n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas.
Okay.
En fait, il y a des services additionnels.
Bon, alors, ces trois modes de résidence-là, il y a quand même un point à aborder, c'est que potentiellement, on va perdre en surface habitable quand même.
On déménage et effectivement, on perd. C'est des logements plus petits. Donc, qui dit logement plus petit dit quoi, Lucie?
Il faut trier ses affaires.
Exactement. Hein, on ne peut pas emmener l'ensemble de sa maison. Donc, effectivement, il y a un tri des affaires. Et là, c'est ma casquette d'experte en rangement qui reprend le dessus. Il va falloir faire des choix. Il va falloir décider ce qu'on emmène ou pas. Et croyez-moi, c'est quelque chose de très difficile à faire, psychologiquement et aussi physiquement. Donc, c'est encore une fois, je sais, on se répète, c'est anticiper.
Ouais, parce que plus on le fait en amont et plus c'est facile et fluide quand on est prêt à partir, en fait.
Exactement. Et je ne parle pas de vivre pendant 15 ans avec ses cartons, hein, pas du tout. C'est juste d'avoir fait des choix en amont sur ce qu'on souhaite emmener et surtout ce qui est important pour nous.
Okay.
Et de le communiquer à ses proches. Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on veut garder avec nous ?
Ok. Donc, on va passer sur d'autres types de logements qui demandent aussi des changements et de l'adaptation sur notre style de vie.
Mm-hmm.
Par exemple, la colocation. Il y a plusieurs types de colocation.
Donc là, on va en distinguer deux. La première, ça va être créer une coloc chez soi.
Ok.
Donc ça veut dire créer une coloc, notamment celle qui est la plus connue, c'est l'intergénérationnelle. Donc c'est une personne qui reste dans son domicile, mais qui a besoin d'une personne présente chez lui et qui va proposer des chambres à la colocation. Ouais. On appelle ça des colocations intergénérationnelles.
D'accord, donc là, c'est ma casquette d'archi d'intérieur, moi, qui va parler. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer un espace adapté dans le logement de la personne, de façon à ce qu'elle reste dans son environnement et dans son logement. Mais souvent, c'est des logements qui sont beaucoup trop grands. Et donc, on peut proposer ce type de solution en aménageant une autre partie pour recevoir de la colocation.
Effectivement, et je dirais même que c'est impératif parce que faire une colocation intergénérationnelle sans bouger son logement, vraiment, hein, pas bouger ni sa déco, ni même un meuble, ni même une salle de bain, alors qu'on a de nouvelles personnes qui y rentrent, en fait, quand on décide, pour le coup, j'ai fait beaucoup de colocations, et quand on décide de vivre avec d'autres personnes, en fait, il faut que tout le monde se mette d'accord sur le mode de vie, sur la décoration. Et ça, c'est des choses quand même qui s'anticipent. On accueille des personnes chez nous. Ouais. Donc, il faut adapter nos logements.
Et tu disais, il y avait un autre système de colocation. Donc, tu peux nous en parler?
Oui, c'est quand, en fait, là, du coup, on ne reste pas chez soi. On rentre dans une colocation. Donc, il y a des colocations pour seniors. Donc, souvent, elles sont... Il existe des colocations intergénérationnelles. Donc, là aussi, en fait, c'est des logements tout faits,
ouais,
clairement.
C'est de l'habitat partagé, en fait.
Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de ça a été imaginé pour. Donc, on déménage, on va dans un logement où la colocation est possible.
Mmh. Donc, ça peut être aussi un projet entre copines ou copains.
Exactement.
En fait, d'investir dans un bâtiment dans lequel on va arriver à faire des logements pour tout le monde et adapter à chaque demande, en fait.
Exactement. Et dans celle-ci, c'est du coup la collégiale qui décide s'ils ont envie d'espace commun, s'ils ont envie d'une laverie commune, d'une
même
salle.
D'une chambre pour recevoir la famille. Qui peut être utilisé de temps en temps.
Donc là, on parle plus de son propre logement, on parle vraiment d'un projet commun. Et clairement, qu'est-ce que ce serait chouette de vivre avec ses copines.
Alors, il nous reste quand même deux points à voir sur les possibilités pour vieillir dignement, on va dire ça comme ça. Quand on a un domicile qui n'est pas trop grand et qu'on a besoin de l'adapter, en fait, donc on peut faire appel à un ergothérapeute.
Ou une architecte d'intérieur.
Ou une architecte d'intérieur, mais ici. Un peu des deux, mais selon les besoins qu'il y a.
Exactement.
Effectivement. Et donc, revoir sa façon de vivre de façon à ce qu'elle soit adaptée à ses nouveaux besoins.
Donc, concrètement, ça va être par exemple, typiquement, avoir une chambre au rez-de-chaussée, une salle de bain au rez-de-chaussée. Demain, si on n'est plus en capacité de monter les escaliers, comment est-ce qu'on fait pour rester dans notre logement?
Ouais, c'est ça. Et puis aussi d'adapter des pertes de mobilité futures. Mais ça, le maintien dans son propre domicile, il y a plein d'autres paramètres. C'est pas que de l'adaptation. Parce que si vous êtes isolé tout seul en pleine campagne, la solitude peut vous peser autant qu'une perte de mobilité. Donc, c'est vraiment une réflexion dans la globalité de ce qui se passe autour de vous. Et du coup, pour pas rester tout seul, il y a encore une autre solution qui existe.
Oui. Et ben là, c'est vous déménager, mais vous déménager dans un environnement très connu, c'est celui d'un proche. Mais là aussi, ça demande de l'adaptation. C'est accueillir. En fait, souvent, on prépare l'arrivée d'un enfant. On lui crée sa chambre, on prépare le tout. Et ben c'est la même chose. Lorsqu'on accueille une personne chez nous, en fait, on prépare son nouvel environnement.
Ouais, faut que tout le monde soit prêt et que ce soit un accord commun. Là, c'est aussi un vrai choix.
Et un échange, encore une fois. Il faut discuter avec nos proches.
Ok, merci Maureen pour ces éclaircissements. Je pense qu'on a fait le tour des grandes solutions qui s'offrent à vous pour anticiper un avenir plus rayonnant.
Et j'aimerais terminer aussi pour... en fait, c'est des questions pour vous. On voudrait que vous arriviez à vous projeter et que vous nous disiez quels hébergements vous souhaitez, pourquoi. Est-ce que vous en avez parlé avec vos proches et quelles sont les difficultés que vous allez potentiellement rencontrer?
Oui, n'hésitez pas à nous faire part de toutes ces réponses sur ou nos réseaux sociaux si vous y avez accès ou sous ce podcast. On sera ravis de discuter avec vous des solutions dont vous rêvez pour vieillir avec dignité et joie.
Et en sécurité.
Ouais,
et joie,
oui.
On vous dit à bientôt.
À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Ça nous motive à continuer. Si vous aimez, laissez-nous un avis.
écrivez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Vous avez un lien dans la description du podcast où vous retrouverez nos réseaux sociaux et notre travail au quotidien. Nous sommes curieuses de savoir si nos échanges ici alimentent vos réflexions personnelles et si ça a un impact sur votre quotidien. Nous vous remercions par avance de parler du podcast autour de vous. Votre contribution permettra à plus de cheveux gris, blancs, roux ou blonds même, de nous écouter. Si vous souhaitez plus de conseils, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux et lors des conférences prévues au printemps 2024. À très bientôt !